me représenter rapidement. Donc, je suis psychologue clinicienne. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans des services de protection de l'enfance et puis dans le milieu du handicap. Et aujourd'hui, j'interviens surtout et essentiellement autour de la parentalité. Ce soir, donc, on est réunis pour réfléchir un peu autour de cette question, de la difficulté à déléguer en tant que parent et en quoi ça peut conduire à un risque d'épuisement parental. Donc moi, j'ai réfléchi un peu autour de trois axes que je vais vous proposer, puis on pourra en échanger par la suite. Dans un premier temps, essayer de voir ce qui peut faire une difficulté à déléguer. Dans un deuxième temps, ce qui joue dans l'épuisement, dans les phénomènes un peu d'épuisement parentaux. Et puis, pour terminer, essayer de réfléchir autour des intérêts en fait, de déléguer pour le parent, mais aussi pour l'enfant. Donc aujourd'hui, la difficulté un peu autour des parents, c'est de trouver la place, leur place de parents, celle où ils peuvent se sentir en confiance et puis solide voilà, dans la relation à leurs enfants. Et il y a un terme qui est très utilisé aujourd'hui autour de la parentalité qui est la compétence parentale. Et derrière ce terme-là, en fait, je m'interrogeais aussi en quoi ça pouvait aussi faire peut-être une difficulté dans le sens où ça renvoie du côté du parent à des capacités, à des savoirs pour l'éducation de son enfant. Donc ça a un aspect positif, ça le reconnaît à une place, mais c'est aussi quelque chose qui amène de la norme et puis une forme de pression sociale pour le parent. Et du coup, je me posais la question, je m'interrogeais dans le fait de voilà, pouvoir déléguer ou demander de l'aide. Est-ce que pour un parent, inconsciemment, ça pouvait être un peu un aveu de faiblesse ou être ressenti aussi comme quelque chose d'incompétence, puisqu'on renvoie au parent qu'il a la capacité et les compétences de s'occuper de son enfant. Et puis, derrière la difficulté à déléguer, moi, j'entendais aussi la difficulté à se séparer, aussi par rapport à son enfant, à instaurer la question un petit peu du manque, et comment on l'instaure, comment on le supporte, aussi bien pour l'enfant que pour l'adulte. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu une idée voilà, autour de l'enfant d'un état où un enfant qui ne manquerait de rien ou à qui rien ne manque. Et ça renvoie aussi du côté un peu d'un amour inconditionnel où il y aurait peu de limites. Et du coup, comment ça peut entraîner ça aussi une difficulté à faire appel à d'autres et à organiser les choses un peu autrement. Et dans les travaux autour des difficultés à déléguer ou de l'épuisement, on entend que ça renvoie aussi à quelque chose du maternel. Alors quand moi je dis maternel, je parle en termes de fonction ou de position. Ça peut être aussi, enfin en psychologie en tout cas, ça ne fait pas référence forcément à la mère, même si quand même dans toutes les études et les témoignages autour de ces questions-là, c'est quand même des mamans finalement qui font état de ces difficultés. Et quand je parlais autour de la question du maternel, ça fait référence un peu au premier temps de vie de l'enfant, où le bébé, en fait, il est en relation avec son parent une relation qui est particulière, qu'on dit aussi un peu fusionnelle, où il y a peu de... Enfin, le manque existe peu, en tout cas, à ce moment-là, puisque le parent, donc soit la maman ou le papa, il doit faire tout ce qui est possible et nécessaire pour prendre en charge son enfant. Et ça le met dans un état particulier où il se met un peu à la place de l'enfant, où il interprète des émotions pour essayer de répondre vraiment au plus près des besoins du bébé. Et en fait, cette relation, elle est particulière aux premiers temps de vie, puisque progressivement, le parent, lui, il va pas rester à cette place-là et il va introduire un peu une séparation et du manque autour de sa relation à l'enfant. Et ça va être une des premières séparations, on va dire, et ça permet en fait que l'enfant ne soit pas tout pour son parent et inversement. Et le parent, lui, il a aussi des ailleurs que son enfant, en fait. Et la difficulté à déléguer, est-ce que c'est voilà, une difficulté, finalement, à fonctionner un peu autrement, ou en tout cas un fonctionnement des premiers temps de vie qui perdurerait un petit peu plus longtemps que le temps nécessaire aux premiers temps de vie du bébé? Et il y a un auteur, en fait, un psychologue américain qui parlait donc de cette première relation à l'enfant. Et il parlait aussi dans les relations parents-enfants. Alors il disait une mère suffisamment bonne. Aujourd'hui, on pourrait dire un parent suffisamment bon. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans cette expression, c'est le « suffisamment ». C'est-à-dire qu'on y entend du pas tout, il y a du assez, mais c'est suffisamment bon. Donc ça montre aussi qu'il y a autre chose pour le parent, ça crée un manque et un espace. Et en fait, ça, c'est les premières séparations qui vont être nécessaires à l'enfant pour se construire. Et puis après, il y en aura d'autres aussi dans la réalité. Quand il y aura les modes de garde, l'école, enfin voilà. Donc finalement, c'est ces séparations qui sont aussi nécessaires et l'enfant, plus tard, de toute façon, il sera aussi pris en charge par d'autres personnes. Et donc derrière la difficulté à déléguer, il y a aussi quelque chose sans doute du côté en fait d'un idéal auquel il est difficile de renoncer. Et renoncer, ça serait pouvoir du coup partager les responsabilités, les tâches et faire la place à d'autres du coup pour s'occuper des enfants. Et sortir un peu de cet imaginaire où une personne pourrait tout faire, ou serait, on va dire, tout puissant pour s'occuper de son enfant. Et ce qu'on entend un peu justement dans les témoignages de certains parents, c'est justement cette volonté un peu et cette difficulté à faire de la place à d'autres en voulant être un peu sur tous les fronts, occuper un peu toutes les classes. Et il y a un sentiment qui est paradoxal au sens où il y a une forme de satisfaction. On peut ressentir une satisfaction d'être le seul à pouvoir répondre aux besoins de son enfant. Et à la fois, donc là, c'est surtout des mamans qui pouvaient dire ça, un sentiment bah voilà, de ne plus avoir de temps, de pourrir partout, et puis ressentir une forme un peu d'isolement, parce que pas se sentir soutenue ou aidée par le conjoint ou par d'autres, en fait. Donc autour de la question de déléguer, si on l'entend comme faire une place à un autre, alors ça serait qui? Qui ça pourrait être? Ces autres. Je m'interrogeais voilà, autour, quand je disais la question du maternel, je m'interrogeais aussi de la question du paternel. Et puis, comment aujourd'hui un père peut aussi avoir une place dans le quotidien, auprès de la mère, auprès de l'enfant. Et autour de ce qui peut être difficile, c'est... voilà, autrefois, il y avait des rôles qui étaient assez bien répartis entre les hommes et les femmes. Et les hommes étaient quand même assez exclus, on va dire, du foyer et puis de la question du maternage. D'ailleurs, on disait que la femme, c'était la maîtresse de maison. Donc, ça disait bien la place qu'elle occupait. Et comment ? Alors, plus maintenant, les choses, justement, elles ont bougé, mais c'est un modèle, en fait, qui paraît dépassé, mais est-ce que nous, on ne transmet pas encore un peu des choses malgré nous de ces questions-là. Et en tout cas, ça pose la question pour le père d'avoir une place auprès de l'enfant et aussi dans la maison. D'ailleurs, il y a un terme aujourd'hui, on dit paterné. Donc c'est un terme qui a été un peu inventé. Et donc ça veut dire que le père, il a aussi sa manière à lui de s'occuper de l'enfant, de jouer avec lui, de prendre sa place. Et la mère, elle est plus toute seule en fait à définir les règles un peu du maternage. Il y a du paternage. Donc comment on partage un peu les choses dans le couple parental. Est-ce que déléguer, c'est aussi faire une place aux enfants, c'est-à-dire pouvoir leur accorder une confiance, leur faire une place pour occuper des responsabilités, alors à la mesure de ce qu'ils peuvent faire. Et ça peut aussi permettre pour le parent de faire une place à un autre et à cet enfant dans des choses du quotidien. Et puis je pensais aussi à la question de la famille élargie, les amis. Et après, autour de la famille, je pensais à la question un peu des grands-parents et comment ça pouvait être, ou ça pouvait poser difficulté à certains moments de faire une place en fait à sa famille. Ça renvoie le parent à sa propre histoire, à ses propres relations dans sa famille. Et ça peut être simple, ça peut aussi être compliqué en fonction de la situation de chacun. Et du coup, c'est aussi accepté, par exemple, pour les grands-parents, qu'ils occupent une place autre que les parents ont connue, en fait, puisque ce n'est pas tout à fait les mêmes règles pour les petits-enfants que quand eux, ils étaient parents. Donc, autour de cette question-là, un petit peu du manquer de rien, on voit comment on peut basculer un peu dans du tout ou du trop et aller vers des choses un peu du côté de l'épuisement. Et du coup, en tant que parent, avoir des sentiments un petit peu comme on dit aujourd'hui de burn-out ou de se sentir dépassé. Dans le devenir parent, il y a des préoccupations, des inquiétudes, il y a plein de questions. Donc, ça se passe bien. On s'inquiète avant l'arrivée de l'enfant. Quand l'enfant il arrive, il y a aussi un équilibre et une modification de l'organisation de la famille, du couple, par rapport à la gestion de son travail, des loisirs, et puis des tâches en fait qui n'existaient pas en fait avant. Il y a aussi toutes les inquiétudes autour des projections, de l'avenir et puis des désirs qu'on a pour ces enfants qui peuvent créer en fait des angoisses ou en tout cas une forme de stress. Et puis on parlait tout à l'heure de la question de l'idéal. Donc le parent, il a envie d'être disponible, d'être à l'écoute pour son enfant, présent, pouvoir passer des moments de qualité avec lui. Et puis dans la réalité, il y a des moments où il rentre fatigué, où il n'a qu'une envie, c'est de se poser et de penser à lui. Donc il peut aussi, dans ce décalage, se sentir aussi mis à mal, d'avoir pas eu le sentiment de passer assez de temps, d'avoir écouté que d'une oreille, de s'être énervé pour un rien, et du coup être en tout cas mis à mal par ce décalage entre un idéal et puis la réalité. Et dans le quotidien, il y a plein de choses aussi à gérer qui participent au phénomène d'épuisement. Moi j'ai trouvé l'expression de marathon des parents que je trouvais intéressante. Autour des trajets à faire, des rentrées le soir, les devoirs, le bain, le repas. Penser à passer un moment avec chacun, savoir comment la journée s'est passée, pas oublier que demain il y a piscine, il faut prendre le sac, les baskets, prendre un rendez-vous chez le médecin. Enfin, on voit bien comment il y a une accumulation aussi de, de choses qui du coup conduisent le parent un peu à réaliser là une deuxième journée après sa première journée de travail. Et ses préoccupations, en tout cas ses inquiétudes, et puis voilà, toutes ces tâches, c'est vécu par un grand nombre de parents. Et en fait, il y a une forme d'équilibre entre cette fatigue qui peut être ressentie, mais aussi des moments de joie dans la famille. Et puis, du coup, les ressources dont dispose le parent, et aussi comment il fait appel à l'extérieur et comment il délègue pour préserver en fait cet équilibre. Et en fait, dans les phénomènes d'épuisement, c'est justement quand la balance ou l'équilibre est plus respecté et quand il y a plus d'éléments stressants et de fatigue en fait que de moments en fait de plaisir, et on voit apparaître donc chez les parents des sentiments d'épuisement, d'être vidé, un peu en mode pilotage automatique. Il y a des parents qui disent ça, des difficultés à ressentir des émotions ou à les exprimer dans la relation avec les enfants. Là, donc, c'est un peu le mode robot avec la routine à accomplir, mais être en difficulté pour faire plus, et puis surtout pour ressentir une forme de... Enfin, il n'y a plus de plaisir en fait dans ce qui est accompli dans la relation avec son enfant, dans son identité, on va dire, de parent. Et puis on peut voir apparaître après des symptômes, des troubles du sommeil, de la colère, de l'irritabilité, des idées noires, et puis des entrées un petit peu en dépression. Et au niveau des processus, on va dire, qui vont être un peu repérés, en tout cas dans les phénomènes d'épuisement, il y a justement cette question, donc toujours en lien avec l'idéal, et puis le renoncement, c'est une tendance à surinvestir et puis au perfectionnisme. Il y a des témoignages en fait je vais encore être obligée de dire de maman qui disent pouvoir se sentir un bon parent en faisant tout dans la maison, en contrôlant tout, et ça peut amener ça une difficulté à prioriser, et puis aussi à pouvoir justement déléguer. Et il y a certains parents qui peuvent dire comment demander de l'aide, c'est même pas considéré comme une option. En lien avec cette question-là du perfectionnisme, pouvant dire de toute façon, mon mari, les enfants, ils savent pas faire ou ils font pas bien, donc vaut mieux que ce soit moi qui le fasse, parce qu'au moins ça sera fait comme moi je l'entends. Et du coup, il y a aussi une ambivalence, donc une réticence à pouvoir demander en fait de l'aide ou de l'accepter. Et puis un sentiment donc un peu d'être seul et lâcher prise, ça serait vécu un petit peu comme un échec. Et donc il y a aussi beaucoup de frustration dans le sens où finalement cet idéal, il n'est jamais atteint, enfin il est inatteignable de toute façon dès le départ, et du coup tous les actes qui sont faits, il y a un sentiment de pas forcément être reconnu ou valorisé malgré tout ce qui est fait dans le quotidien. Donc pouvoir déléguer, je me disais, est-ce que c'est aussi accepter qu'il y ait du ratage, de l'imparfait, et puis accepter qu'on ne peut pas être tout pour son enfant, et que ça c'est structurant en fait pour l'enfant, dans le sens où déléguer pour du côté du parent, c'est prendre du temps pour lui, pouvoir partager les tâches, décharger des responsabilités pour finalement être plus disponible à certains moments. Accepter de ne pas tout faire et de ne pas être tout pour les enfants, pouvoir se dire que les enfants, ils peuvent vivre sans moi, que la maison, elle peut tourner aussi sans moi, et prendre du temps pour soi, avec d'autres aussi que l'enfant. Donc ça passe par de la détente et puis des moments aussi de vie sociale. Et tout ça, ça participe en fait à instaurer justement de la séparation et du manque pour au sens où l'enfant, en fait, il ne va pas être tout pour le parent. Et réciproquement. Et donc nous, alors en psychologie, on utilise voilà la terme de, enfin le, des termes dire faire du de la place à un tiers, au sens aussi de pouvoir reconnaître un espace où l'enfant il va pouvoir se développer comme une autre et se construire comme une autre personne en fait et une personne à part entière. Donc pour l'enfant. Cet espace-là, de le manque dans la relation et la séparation, ça va lui permettre justement de se construire. Et puis, il va aussi faire l'expérience que il y a toujours un décalage entre un besoin et l'objet qui vient y répondre, et que là, on n'a pas tout ce qu'on veut, on n'a pas tout tout de suite. Et on continue en fait à désirer voilà des choses et l'enfant il se confrontera à ça de toute façon plus tard à l'école quand il sera avec des autres et l'intérêt aussi voilà de pouvoir faire de la place à d'autres et de pouvoir déléguer c'est aussi permettre à l'enfant qui se sépare de ses parents et ça lui laisse de la place pour faire d'autres choses, pour faire d'autres acquisitions, en fait, ça lui permet de faire des acquisitions au niveau de l'autonomie, de la motricité, du langage, et puis ça lui laisse aussi de l'espace psychique disponible pour faire des apprentissages. Donc à l'école, c'est nécessaire pour l'enfant, en fait. Et peut-être pour terminer, si j'arrive. Dans les temps, ça lui permet aussi donc à l'enfant d'être avec d'autres et de se socialiser, du coup, d'apprendre aussi d'être en relation avec d'autres. Et on pourrait dire aussi que tout le monde ne soit pas à la même place pour lui et que voilà, c'est aussi un accès à la question de la différence. Enfin, un premier accès à la question de la différence pour l'enfant à laquelle il se confrontera plus tard. Voilà. Merci à vous. Bravo. Encore un timing parfait.
Presque
parfait.